Amis, ce soir, nous allons passer ensemble en revue ce texte des Verdeurs des Pythagoriciens. C'est pour ça qu'on a distribué le texte pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure, parce qu'effectivement, c'est un texte qui est à la fois dense et qui est très intéressant et qui donne lieu à des réflexions à la lumière de la philosophie qui sont très très pertinentes. Pourquoi des Pythagoriciens? Parce que d'abord c'est le titre exact, c'est la traduction du grec, c'est du Verdeur des Pythagoriciens, et puis parce que ça reflète l'enseignement de Pythagore, mais à travers l'héritage spirituel. C'est pas forcément ce que Pythagore a écrit, parce que comme les grands instructeurs, Pythagore n'a jamais rien écrit vraiment directement. L'enseignement de ses instructeurs était oral, ce sont les disciples avec le temps. Et ça, c'est un texte qui a été retrouvé dans des écrits, sauf erreur, au 4e ou au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors que Pythagore, la vie de Pythagore, était située entre la naissance 586 environ, parce que les dates sont un peu discutées, moins 586 pour la naissance à Samos, dans une ville grecque, et il est mort en moins 480 à Métaponte. Donc, on voit bien, c'est le 6e à 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce texte a continué à inspirer les pythagoriciens jusque dans les 500, les années 5e, 6e siècle de l'ère chrétienne, et plus tard aussi, parce que dans les philosophes du feu, dans les différents courants philosophiques, on va retrouver l'influence de ces idées pythagoriciennes. Alors, peut-être on peut présenter en quelques mots, avant de rentrer dans le texte, rapidement qui était Pythagore. On ne sait pas grand-chose de sa vie. Il y a deux auteurs qui en ont parlé, c'est Jean Blic, l'ouvrage qui s'appelle La vie de Pythagore, et puis il y a aussi Porphyre, qui a fait aussi un ouvrage, La vie de Pythagore. En résumé, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Pythagore, très jeune, était très doué, très curieux, et finalement, il a passé jusqu'à l'âge de, au moins, il avait une quarantaine d'années, il a passé beaucoup de temps à voyager. Il a été enseigné au mystère qui était disponible en Grèce, qu'on appelle la Syrie, le Liban aujourd'hui, c'est-à-dire en fait les mystères qui étaient dérivés des mystères égyptiens. Et sur le conseil d'un de ses maîtres qui était Thalès, c'est-à-dire Milet, il avait donné comme conseil, parce qu'il avait remarqué le talent assez grand de Pythagore, d'aller directement à la source, entre guillemets, on va voir la source, ce que ça veut dire vraiment, d'aller auprès des prêtres égyptiens se faire instruire et initier. Donc Pythagore a été donc en Syrie, il a été en Égypte, il a été partout où il y avait, où on a bien voulu lui donner accès à des connaissances, à des initiations, mais il a été plus loin puisqu'il a été pris dans une période de guerre, il a été emmené en captivité à Babylone, et là il a rencontré, il a été en contact avec la sagesse chaldéenne. Et donc, une ouverture à nouveau sur des enseignements, évidemment, qui sont aussi anciens que l'Égypte. Bon, l'histoire de l'Égypte est un petit peu complexe, parce qu'il y a deux sources principales. Mais disons qu'il y a une source qui est en rapport avec la Chaldée, et qui, pour la théosophie, représente un maillon intermédiaire, et qu'il faut aller encore plus loin, et que la Chaldée a été elle-même inspirée par ces grands sages, après l'effondrement de l'Atlantide, qui venaient, qui se sont réfugiés dans l'Asie centrale, qui est au nord de l'Himalaya. Donc, on voit là que les enseignements chaldéens prennent leur source dans les enseignements qui sont à l'origine aussi de la tradition des Aryens, c'est-à-dire du brahmanisme, mais aussi des traditions du zoroastrisme, en fait. Donc, en fait, ces sources viennent de l'Asie centrale et Pythagore, Madame Blavatsky le dit, c'est pas forcément reconnu officiellement, même si on le trouve dans certains sites d'Internet aujourd'hui, Pythagore est allé jusqu'en Inde et on parle de lui sous le nom de l'instructeur grec, en fait, Yavanacharya, c'est-à-dire c'est l'instructeur grec, Yavana, la Yoni, en fait. Donc, il est clair que Pythagore est un disciple de cette sagesse éternelle et qu'il est allé jusqu'en Inde, vraisemblablement, se faire initier, recevoir les initiations les plus élevées disponibles. Et puis, il est revenu ensuite à son île de Samos, et là, donc en repassant par la Chaldée, etc., il est revenu à, et là, il est passé dans une phase d'instruction, en fait. Il est devenu un instructeur, ce qui est normal, parce que ceci n'est pas fait pour son bénéfice personnel, pour s'isoler dans une tour d'ivoire, mais bien sûr, pour essayer de faire partager. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, mais finalement, donc on va résumer, mais il est allé jusqu'en Italie, à Crotone. La réputation l'avait précédé, et la tradition dit, c'est ce que rapporte Jean-Luc dans sa vie de Pythagore, et quand il a débarqué, pour se rendre à la ville de Crotone, il y avait 600 personnes qui l'attendaient. Donc, évidemment, ça veut dire que là, il y avait des gens qui étaient prêts pour ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est-à-dire fonder une école de sagesse, une école philosophique. On dirait, en fait, une école de initiatique, parce qu'effectivement il y avait un engagement, un serment de secret, et il y avait une discipline qui était très rigoureuse. Alors ça c'est raconté un peu par Pythagore, mais bon, on n'a pas le temps de donner l'ensemble des détails, mais il y avait par exemple la mise en commun de ceux qui rentraient dans cette école, tout leur bien. Il y avait une communauté, comme dans les ordres monastiques, en fait, on rentrait, on donnait à la communauté ce qu'on avait comme bien. Il y avait une discipline le matin et le soir, il fallait pratiquer le chant, il y avait le silence. Alors avant de pouvoir voir le maître, il fallait rester 5 ans, en écoutant, en étant en dehors de la maison du maître. Alors on retrouve cette idée dans l'Évangile, parce que dans l'Évangile on voit que Jésus enseignait ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, qui étaient ses disciples, ils expliquaient les paroles. Et ceux qui étaient la foule étaient en dehors, à l'extérieur de la maison. Alors c'est à la fois un langage symbolique de maçonnique en fait, pour dire qu'il y a un initié qui va initier ceux qui ont prêté serment, qui sont prêts à effectivement qui ont non seulement prêté serment, mais qui ont démontré leur aptitude à recevoir l'enseignement, à être ouvert et à avoir purifié leur nature. Alors on va retrouver évidemment tout ça dans le texte, et disons ce sont les grandes lignes, c'est une école de sagesse avec une discipline. Alors le végétarisme bien sûr, pas de vêtements de laine, mais des vêtements en fil de lin, parce que c'est une matière du point de vue magnétique qui, contrairement à la laine, qui va transmettre une influence d'indolence liée à la nature de l'animal, etc. Enfin bref, plus que on l'a dit, avant de pouvoir passer à la phase, disons, d'être accepté comme un disciple et donc être soumis comme un écoutant à ces 5 années de silence, il y avait d'abord 3 ans de probation, où une enquête était faite auprès des parents, des gens qui connaissaient le candidat, pour s'assurer de la moralité et de la détermination du candidat. À partir de là, pendant ces 3 ans, au-delà de ces 3 ans, avait lieu cette phase de 5 ans, et après, au bout de 5 ans, qui pouvait être réduit, d'après ce que dit Jean-Blic, à 2 ou 3 ans, si vraiment le disciple manifester des qualités exceptionnelles. À ce moment-là, il pouvait rentrer à l'intérieur de la maison et voir le maître plutôt que ce terme de 5 ans. Voilà, donc en fait, c'est dans ce contexte qu'il faut lire ces versets de Pythagore. Et la première phrase qui est citée, que l'on rapporte des commentaires de Héraclès, c'est « Je vais parler aux sages, Et il faut éloigner les profanes. Donc ça veut dire que là, on a un texte initiatique. Les profanes, ce sont ceux qui sont à l'extérieur du temple. Donc, c'est la foule, c'est le commun des mortels. Alors, ce n'est pas de l'élitisme, c'est qu'en fait, ces enseignements initiatiques ont besoin d'une oreille qui soit disponible et préparée. On ne donne pas, on dit l'évangile, on ne jette pas ces termes pour sauts. Il faut qu'effectivement, il y ait une purification et on va voir le texte décrit. Quelle est la purification et à quoi ça amène finalement? Alors, le début du texte, les quatre premiers versets, sont un rappel de ce qu'il faut, l'attitude positive qu'il faut avoir. Il faut honorer les dieux immortels. Il faut vénérer son serment. Le serment, c'est le serment devant sur la tétractis. On en reparlera, la tétractis, mais c'est la représentation dans le cœur de la nature. On dirait Ishvara si on prend la guitare, en fait. C'est la représentation dans le cœur de la nature du divin. Donc on dirait, dans le jargon théosophique, on dirait le soi supérieur, c'est-à-dire c'est l'engagement qu'on prend sur le devant son soi profond, qui est le soi un et universel. Il faut respecter, il faut honorer les héros. Les héros, ce sont, au sens des Grecs, ce sont des demi-dieux comme Arjuna ou les cinq frères Pandava dans le Mahabharata, ce sont des demi-dieux, ou comme Héraclès, ou comme Asclépios, qui sont en fait un parent, en général c'est le dieu qui est le père, et puis d'une mère terrestre en fait. Ils sont d'une nature, les héros, et d'une nature double, à la fois donc divine et terrestre, qui leur permet d'accomplir des choses qui paraissent incroyables, comme les 12 travaux d'Hercule en fait. Mais ça n'est pas si incroyable que ça, parce qu'effectivement, on va voir, ce sont des choses qui sont possibles pour les hommes. Il faut honorer aussi les génies souterrains. Là, il y a beaucoup de discussions dans la littérature. Les érudits occidentaux ont du mal à interpréter ça. En fait, Mme Lasky dit qu'il faut me rapprocher ça. Les génies, ce sont des chikala de la nouvelle, ou les coins de mine. Dans le bouddhisme, en fait, ce sont ce qu'on appelle les anges gardiens. En fait, c'est-à-dire, en fait, ce sont des entités qui appartiennent. Alors, les génies souterrains, parce que dans l'Hadès, le domaine qui était sous la domination du dieu Hadès, qui lui avait hérité dans le partage du monde souterrain, il y avait quatre niveaux. L'un était les Champs-Élysées qui correspondent au séjour des âmes après la mort, mais il y avait aussi des phases intermédiaires qui correspondraient à ce qu'on appelle le Kamaloka dans le jargon théosophique, c'est-à-dire en fait là où les âmes vont après la mort, les étapes de purification, etc. Tout ça, c'était dans le monde du disputérin, et c'était sous la domination de Hadès, qui s'appelle Pluton chez les Latins. Donc il faut les vénérer parce que ça correspond à des entités qui sont là comme des anges gardiens qui veillent sur l'humanité et qui, à un moment donné du développement spirituel, vont jouer un rôle particulier en fait. Ils vont se rapprocher vraiment du cœur de l'être intérieur et vont apporter un parrainage indispensable. Il faut honorer aussi au verset 4 les parents et tous les êtres qui sont proches. Bon, il faut effectivement. Alors, dans le cadre de la pensée grecque, bien sûr, le plus important, c'est la patrie. Donc, les parents, les proches, c'est important, mais être au service de la patrie, c'est encore le devoir le plus élevé. En fait. Comme Arjuna qui défend son. Dans la bagarre du tas. Alors, les amis, donc, du verset 5 au 9, en fait. La première partie du 9, là, c'est la relation avec des amis. Il faut choisir ses amis et il faut choisir ceux qui sont les meilleurs envers lui. Il ne faut pas se lier avec des gens qui, de toute évidence, ne sont pas dans ce registre-là. Il faut céder aux paroles douces, c'est-à-dire que ce qui peut. Il y a des conseils qui sont donnés par ses amis, il y a des suggestions, ici ils appellent ça des travaux utiles, il ne faut pas se fâcher avec son ami pour une chose futile. Ça, c'est le verset 7. Si on peut le faire, et il dit là que le pouvoir habite auprès de la nécessité. Bon, c'est une phrase qui est peut-être un peu obscure, mais en fait, ça veut dire que s'il y a vraiment quelque chose qui doit être fait, là, c'est un aspect du karma, on trouvera la force de le faire. Le pouvoir, la possibilité de le faire, et accompagne la nécessité. Alors, sache que ces choses-là, donc, qu'elles sont ainsi, et que d'autre part, il faut, alors ça c'est la discipline qui va, donc il y a le choix des amis, maintenant il y a une discipline dans la vie quotidienne, il faut s'habituer à maîtriser, s'habituer, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, il faut s'habituer d'abord mentalement avec l'idée qu'il faut faire des choses, et ensuite il faut maîtriser l'estomac, le sommeil, la sexualité et la colère, l'emportement. Ça c'est les versets 10 et 11. Il ne faut pas faire de choses que l'on va regretter après, qui sont contraires à cette maîtrise qu'on recherche. Et plus que tout, verset 12, il faut se respecter soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut être là comme un guerrier qui veut tenir sur ses deux jambes et qui veut s'assumer en fait. C'est difficile, c'est sûr, il y a des circonstances dans la vie qui sont difficiles, mais se respecter soi-même, c'est qu'on est là en évolution. On ne peut pas arriver demain, c'est pas possible. Il y a les lois de la nature, il y a la composition, il y a le passé, il y a la philosophie, le karma passé, tout ça. Il faut l'accepter et il faut effectivement se respecter, c'est-à-dire croire en soi, croire en ses possibilités. On va voir qu'il y a des échos plus loin de cette phrase. Il faut être un amant de la justice, l'exercer de la justice en parole et en acte. Alors, justice envers soi-même, justice envers les autres, c'est évident. Ça, c'est le verset 13 et 14. Il faut se comporter en tout, et se comporter en tout sans réflexion, il ne faut pas en prendre la vertu. Donc, il faut réfléchir, bien sûr. Ça, c'est le philosophe, évidemment, c'est-à-dire c'est celui qui décide de ses actions. Donc, non seulement il se respecte soi-même, mais il doit prendre l'habitude de réfléchir avant d'agir. Et réfléchir et agir, c'est-à-dire la parole et l'acte, ce sont des actions, il faut les faire après réflexion et avec justice. Alors, verset 15, la destinée de tous, c'est la mort. C'est la mort, bien sûr, c'est un aspect, c'est le corps qui meurt, c'est la personnalité qui meurt quelque part, mais il y a quelque chose qui est emporté. Et il dit, même chose pour les richesses, la mort, c'est la mort des richesses. Bon, c'est temporaire, tantôt on peut les acquérir au verset 16, et tantôt on peut les perdre. Bon, ça c'est clair, c'est les philosophes grecs, bon, on pourrait en citer. On dit il faut accepter, c'est la roue de la vie en fait. Donc si on s'attache avec obstination aux richesses, on se crée des problèmes, on s'enferme avec des ennuis mentaux, et donc ça c'est le discours du Bouddha aussi. On se crée ses propres problèmes mentaux, à commencer par le mental, et après ça se répercute sur le psychique et le physique. Et on se crée ces maladies comme ça. Alors, et tout ce que, de par les destinées divines, les mortels reçoivent de douleur, bon, ça vient de destinées divines, bien sûr. Si tu en as ta part fatale, supporte-la. Parce que c'est comme ça, c'est les lois de la vie. Et il ne faut pas s'en indigner, et il faut essayer d'y remédier autant que faire se peut. Donc, voilà, il faut réfléchir de la manière suivante. Donc là, il donne un conseil, ça c'est nos versets 19 et 20, que les gens de bien, la destinée ne donne pas beaucoup de ces choses-là. Donc en fait, si on cultive le bien, et si effectivement on suit cette voie qu'il indique, on devrait normalement clarifier les choses et ne pas avoir des choses qui vont nous écraser en fait. Parce que la destinée est une destinée divine, évidemment. Alors, maintenant, entre le 21 et le 26, on va parler de l'environnement dans la vie. Alors, il y a des paroles viles ou vertueuses qui sont, qu'on entend. Bon, alors qu'est-ce qu'il. Ces paroles tombent, comme dit le texte. Il ne faut pas s'en frapper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas t'en inquiéter. Il ne faut pas non plus s'en écarter, en fait. Il ne faut pas fuir, parce que la théosophie dit, on le trouve, on le voit dans les livres des Portes d'Or, en fait. On s'attache aussi bien par l'attrait que par la répulsion. La haine attache aussi bien que l'amour, donc en fait. Si on entend des choses comme ça et qu'on vit une attitude intérieure très très marquée, on essaye de fuir, en fait, on crée des liens intérieurs. En fait. Alors, si quelques mensonges se prononcent, ben, ça arrive, on peut être témoin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut de la douceur, il faut accepter, il ne faut pas tomber à bras raccourcis sur la personne qui a prononcé ça. Ce que je vais te dire, que cela s'accomplisse en toutes circonstances. Et là, on retrouve l'idée du philosophe qui doit être autonome, qui doit se respecter lui-même, qui doit décider lui-même. Il dit que nulle parole ne t'induise, ni en acte à faire, ni à dire, ce qui pour toi n'a point d'avantage. Donc tu dois délibérer, c'est pas parce qu'un tel t'a dit qu'il faut faire ça que tu dois te précipiter pour le faire. Non, tu dois te poser, réfléchir et décider en tant qu'être responsable et autonome. Délibère donc, le 27, avant l'action, pour que n'existe point de chose blâmable. C'est en effet un homme misérable que de faire ou de dire des folies. Donc, avant de regretter d'avoir fait des folies, d'avoir dit des folies, il vaut mieux réfléchir avant d'agir. C'est évident. Mais n'accomplis pas ces choses qui plus tard te chagrineront. Alors, au 30 ou au 31, là, il faut être modeste, on ne connaît pas forcément tout, donc il dit ne fais pas ce que tu ignores, mais apprends. S'il y a des choses que tu ne connais pas, apprends-les. Franchement, il faut aller voir ceux qui savent et ils t'enseigneront, évidemment. Tout ce qu'il te faut, apprends tout ce qu'il te faut, et c'est là la plus agréable vie que tu passeras. En fait, il ne faut pas non plus de la santé, donc là on passe au registre de la santé. Donc en fait, il faut apprendre, et si on se soumet à cette injonction, on verra que les choses vont se clarifier. Alors, à partir de là, du 32 jusque, disons, jusque au 36, on est sur le registre de la santé. Alors, la santé de ton corps, il ne faut pas la négliger. La boisson, la nourriture, la gymnastique, il faut garder la mesure, le juste milieu, dit le Bouddha. C'est pareil, en fait. Et j'appelle la mesure, ce qui point ne te chagrinera. Donc en fait, il faut savoir être philosophe et anticiper et ne pas faire des choses qui vont effectivement s'avérer après coup, être regrettables. Le 35 et 36, habitue-toi à mener un genre de vie pure sans mollesse, évidemment. Donc. Et garde-toi de faire toutes ces choses qui provoquent l'envie, c'est-à-dire le désir. En fait, c'est la pensée qui ressasse, on l'a vu dans l'étude de Patanjali, en fait, l'attachement, ça vient de la pensée qui ressasse ce qui est agréable. La répulsion, c'est la pensée qui ressasse ce qui provoque un rejet. Donc en fait, il faut éviter ces choses qui provoquent le désir, c'est-à-dire il faut ne pas se ressasser ces choses, il faut aller, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas avoir de désir, mais ça veut dire qu'il ne faut pas être là à ressasser ces choses-là. 37 et 38, là aussi la mesure, elle est excellente, il ne faut pas dépenser comme celui qui ignore la beauté, c'est-à-dire en fait qui gaspille les choses. Et il ne faut pas être non plus avare, donc il faut trouver le juste milieu. il faut faire ce qui, au 39, ce qui ne te nuira point, donc, et réfléchir avant d'agir. On retrouve que c'est une, dans cette phase qui est une phase de, on va dire, de purification de l'âme et de ses instruments, du corps et de l'âme. L'âme en rapport avec le corps. On voit bien, c'est une phase de purification. Après avoir dit qu'il faut honorer les dieux, il faut respecter son serment, ça fait partie de cette discipline. Pythagore avait dans cette école la façon de procéder, c'est qu'il fallait effectivement passer par la discipline. Et ça, c'est une règle éternelle. C'est que ces grands sages n'enseignent qu'à ceux qui ont été prouvés que leur nature intérieure est prête à recevoir ces enseignements. Parce que d'abord, ils peuvent être mal interprétés. Par exemple, se lancer dans l'astral, si on n'est pas purifié intérieurement, on peut sombrer dans la médiumnité ou dans la magie noire. Donc, c'est des choses qui existent, mais qui sont dangereuses pour des gens qui ne sont pas purifiés moralement. Donc, voilà, donc il faut trouver. Alors après, il y a le sommeil. Donc là, on est toujours dans la phase de purification. Alors, c'est l'examen, donc du 40 au 44, c'est l'examen de conscience. Il ne faut pas s'endormir. N'accueille point le sommeil sous la douceur de tes yeux avant d'avoir examiné chacun de tes actes du jour. Alors, est-ce que j'ai commis une erreur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? En commençant par le premier, on va jusqu'au bout. Et puis, bon, bah, s'il y a des choses qui sont honteuses, blâme-toi. Si tu as bien agi, réjouis-toi. Donc, là aussi, c'est le bilan du philosophe qu'il faut essayer de faire objectivement. Encore une fois, ce n'est pas de la culpabilisation. C'est celui qui décide en pleine responsabilité. Personne, il n'y a pas quelqu'un qui va lui taper sur les doigts. C'est la conscience qui est là et qui doit guider, en fait. On verra après, à la fin, comment elle éclaire. Alors, le conseil, évidemment, de Pythagore, enfin, parce que ça apparaît là, à ces choses, donne ta peine et ton application, il faut que tu les aimes. La discipline, ça ne marche pas si on n'y croit pas et on ne se donne pas. Il faut aimer cette entreprise. Elles te mettront, au 46, sur la voie de la vertu divine, c'est évident. On n'est pas tout de suite sur la voie de la vertu divine, mais elle est là potentiellement. Il faut purifier ses instruments. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites là, qui faisaient partie de ce qui se passait dans cette école pythagoricienne, l'importance des mathématiques, l'étude des mathématiques, l'étude de la musique, etc. Bon, tout ça, ça faisait partie de ce qui était demandé. Et tout ça, ça amène à la voie de la vertu divine ou de la sagesse, en fait. Je te le jure par celui qui a à notre âme transmis le quaternaire, la tétractice, source de l'éternelle nature. Alors, c'est quoi cette tétractice? C'est le soi supérieur, si on veut. C'est-à-dire, en nous, il y a ce qui fera dans la Vita au chapitre 18, on dit. Il y a dans le cœur de toutes les créatures le maître Ishvara qui est là, dans toutes les créatures. Donc ça veut dire que le pouvoir divin, il est là, il est immanent, en fait. Donc il est là, dans le cœur, et c'est une source, c'est la source de l'éternelle nature. Alors tétractique, c'est le quaternaire, parce qu'effectivement, on peut voir le divin comme un triangle dans un cercle, par exemple. Enfin, il y a plusieurs façons de représenter le tétractique, on peut voir un carré. Mais l'idée, c'est que le pouvoir spirituel est représenté par un triangle. C'est l'un et la combinaison de l'un avec la dualité, en fait. Cette dualité, c'est la vie, c'est le temps, c'est la dynamique. Et l'un, c'est l'unité, c'est le point de référence. Donc quand on combine l'un avec le deux, on obtient le trois, qui est le triangle, en fait. Donc la tétractie, c'est basé sur le triangle et sur le cercle, parce que le cercle, c'est l'idée des cycles, c'est l'idée. Enfin, tout ça, bien sûr, c'est alimenté par le. Il y a beaucoup de choses dans la doctrine secrète, dans les écrits théosophiques, mais bon, dans les sens de la doctrine secrète, on trouve beaucoup d'idées là-dessus. Et c'est l'idée que notre nature, si on retourne, on regarde à l'intérieur, dit la voix du silence, on regarde en dedans, tu es Bouddha, c'est-à-dire que tu es éclairé. La lumière divine est dans le cœur de tous les êtres. Donc, elle est la source de l'éternelle nature. Alors. Quelles conséquences ça a? Si tu te lances dans une tâche, ne le fait pas avant d'avoir prié les dieux de l'achever. C'est-à-dire, c'est l'idée dans la Gita qu'il y a un ordre cosmique. En fait, on s'insère harmonieusement et que, en fait, on n'a rien fabriqué, on n'a rien créé, on est juste un utilisateur de pouvoir spirituel. Donc, effectivement, il faut reconnaître avec modestie qu'on est juste un élément déclencheur et que c'est la nature divine qui fait tout, finalement. Donc, quand on accomplit une tâche, c'est la nature qui prend en charge le reste. On le voit dans l'évolution spirituelle, Dieu te le dit, la vraie nature qui engrange les résultats sont dans la nature spirituelle. Ce n'est pas sur le plan physique que les résultats se voient. Mais après la mort, on va digérer tout ce qui a été fait, on va enrichir cette nature et on va revenir plus fort spirituellement, etc. Donc il faut demander, il faut reconnaître, il faut implorer les dieux pour achever ce que l'homme a commencé. Alors, devenu, donc maintenant on passe à la phase des bénéfices de cette mise en route et de cette purification. Donc dans cette deuxième partie du 49, devenu maître de ces choses, tu sauras. Donc là, il y a tu sauras, tu connaîtras, tu sauras. On le voit au 50, on le voit au 52, au 54. Il y a un certain nombre d'affirmations qui sont faites, parce que là, c'est la connaissance qui apparaît. Alors, tu sauras quelle est des dieux et des hommes mortels la constitution. Jusqu'à quel point les êtres, les éléments se séparent et jusqu'où ils se tiennent. Ça veut dire quoi, ça, ils se séparent et ils se tiennent? Ça veut dire qu'en fait, tout dans la nature est une unité dynamique, en fait. Donc, les choses se tiennent, parce que dans leur côté spirituel, c'est une unité dynamique, mais dans la perception qu'on en a, elles paraissent séparées. On voit les objets là, on voit les plantes, on voit les trucs, ça paraît séparé. Donc c'est une illusion, c'est une illusion, mais derrière, il y a, elles se tiennent. Alors, tu connaîtras dans la mesure de la justice, c'est-à-dire si le karma le permet, que la nature en tout est semblable. C'est-à-dire qu'il y a une seule nature spirituelle qui est partout, en sorte que pour toi, il n'y ait nul espoir de ce qui est sans espoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire au miracle. Il n'y a pas de miracle. Ce qui est effectivement est impossible ne va pas devenir possible comme ça. Et que rien ne se dissimule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses. Que tout, quelque part, dans cette nature spirituelle est transparent, finalement, parce qu'il y a une unité fondamentale. Alors, tu sauras, 54, alors encore, la connaissance, que les hommes, donc là, tu accéderas à la clairvoyance sur les hommes, vraiment. Les hommes ont les maux qu'ils ont eux-mêmes, les maux, le mal, les difficultés qu'ils ont eux-mêmes choisies. Ces malheureux ne voient pas les biens qui sont près d'eux, ni ne les entendent. Donc ça veut dire qu'ils ont les moyens de se sortir d'affaires, mais ils ne le voient pas, ils sont aveugles. Se libérer du mal au 56, peu de gens le savent. Donc ça veut dire qu'il faut être le philosophe, s'être préparé intérieurement et voir ou entendre ce que la nature, on dirait, Madame Lassie dit dans la clé, quels sont les moyens de trouver de l'aide dans la vie. Il y a le soi supérieur qui représente la voie intérieure et le karma, donc les opportunités de la vie apportent tout ce qu'il faut pour cheminer et aller plus loin. Mais il faut le chercher. Alors, se libérer du mal, donc tel est le destin qui égare les esprits des mortels. En fait, le destin, c'est le cheminement. Alors, on va voir, évidemment, après, ils sont comme des billes de bois qui, sur l'océan, roulent en fait, de part et d'autre, ils se portent, souffrant de maux infinis qu'ils ont eux-mêmes choisis. Alors, un exemple, la discorde, elle égare sans qu'on s'en aperçoive, la disharmonie. En fait, pourquoi? Parce que tout est basé sur l'harmonie. Et l'harmonie, c'est la compassion dans la voie du silence, c'est la loi une en fait, donc tout est harmonie. Donc la discorde entre les hommes, c'est le pire probablement des maux en fait. Donc, il faut Alors, elle est innée en eux, c'est-à-dire qu'elle habite forcément, de par le karma passé, elle nous habite tous, on est prêt à réagir instinctivement comme ça. Elle égare sans qu'on s'en aperçoive, elle est innée dans tous les hommes, et il faut se garder de la provoquer, donc il ne faut pas en rajouter en fait. Et en même temps, il faut la fuir en lui cédant, c'est-à-dire il ne faut pas monter sur ses grands chevaux, mais il faut lui céder, c'est-à-dire que quand la discorde est là, on se retire, et puis voilà. Il ne faut pas essayer, parce qu'on n'a pas le pouvoir d'arrêter une guerre, on n'a pas le pouvoir de faire ci et ça. Même les maîtres n'ont pas ce pouvoir. Donc, et là, cette phrase suivante, 61-62, enfin 62-63-64, aussi est évidemment très très philosophique. Zeus, notre père, certes, de bien des mots, tu délivrerais tous les hommes, si à tous tu montrais de quelle divinité ils se servent. Donc si tu leur défiais les yeux, si tu leur montrais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, bien sûr, tu les délivrerais de leurs mots. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais toi, prends courage, puisqu'ils sont de race divine les mortels. Ça c'est au 63. Ça veut dire que les hommes, ils ont une destinée divine, la Gita le dit aussi, et leur rôle, c'est précisément de passer par ce chemin difficile et laborieux pour faire sortir ce qui est... même Zeus ne va pas contre la loi divine, en fait. Et ils sont de race divine les mortels, à qui la nature sacrée présente la révélation de toutes choses. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement dans l'homme cette vision de l'universel, des lois de l'univers, etc., qui est porté par cette tétractice, ce soit supérieur, si on veut. Donc c'est la révélation de toutes choses. Donc l'univers, c'est l'unité, c'est la perception. La Gita le dit au chapitre 4, enfin différents endroits. Si tu y prends part, si tu participes à cette révélation, tu triompheras de ce que je t'ordonne, c'est-à-dire de ce que je te demande de faire. Et après avoir guéri ton âme, tu la sauveras de ses peines, en fait. Donc, alors là, on est dans les étapes. Il y a la purification qui amène à la connaissance. Quand la connaissance est vision et qu'elle permet de voir les choses, à ce moment-là, il y a la libération qui commence. Mais la libération n'est vraiment effective que quand il y a eu la vision, tu sauras, tu connaîtras, tu sauras, tu verras, etc. Parce que, la Gita le dit aussi, la vision spirituelle est libératrice. On traverse l'océan des péchés sur la barque de la connaissance du chapitre 6. Donc en fait, c'est ça. C'est à ce moment-là, il lui dit, abstiens-toi des aliments dont on a parlé. Les aliments, c'est au sens symbolique, c'est pas seulement la nourriture, c'est la nourriture psychique, mentale et spirituelle. Abstiens-toi des aliments qu'il faut rejeter, et dans les purifications, comme dans la libération de l'âme, décide, c'est son dernier conseil, décide et réfléchit sur chaque chose. Donc sois un philosophe finalement, cherche la vérité. Alors, au 69, là aussi on est obligé de faire un parallèle avec la Bhagavad Gita parce qu'il est extrêmement transparent. Après avoir établi comme conducteur de char l'organe du jugement, c'est-à-dire... En grec, c'est un seul mot, un gnomène, c'est-à-dire c'est l'intuition, en fait, qui vient d'en haut, qui est stable, et qui est pleine d'excellence, comme conducteur de char, c'est-à-dire c'est le Krishna, en fait. Le conducteur de char dans la Gita, c'est Krishna, c'est le septième principe, si on veut, ses âmes spirituelles dans sa racine, ou c'est cette. Après l'avoir établi comme conducteur de char, puis, après l'abandon de ton corps, c'est-à-dire après la mort, d'une certaine manière, si tu arrives au libre éther, c'est-à-dire que, l'éther, il y a la lumière astrale, ça c'est les plans inférieurs, mais le libre éther, c'est ce qui est au-delà, c'est le monde des dieux, des immortels, c'est ce qui n'est plus, on va dire, pollué par la terre, et qui est le domaine de la lumière, le libre éther, tu seras immortel, un dieu qui ne meurt point et non plus un mortel. Donc là, évidemment, c'est la destinée divine. Alors, bien sûr, la discipline spirituelle permet d'atteindre même ces états dans le samadhi depuis quand on est encore incarné dans la sagesse de l'Orient. Il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour arriver à transformer cet état et de devenir un bodhisattva, c'est-à-dire un être qui peut demeurer dans les plans intérieurs, comme Nirmanakaya. Bon, mais là, bon, dans le contexte, avec les éléments, c'est comparé. Et le mot immortel apparaît deux fois, avec deux qui ne meurent point et qui est immortel. C'est pour vraiment insister et pour dire que l'homme a cette destinée divine s'il suit cette voie de la vertu. Donc finalement, ces vers d'or des pythagoriciens, c'est un résumé du mode d'emploi, en fait. C'est le mode opératoire dans cette école de sagesse de Pythagore. C'est vrai qu'on ne connaît pas les paroles de Pythagore, mais peu importe, quand on voit ce texte, quand on lit ce texte à la lumière de cette sagesse, de l'éclairage philosophique que ça nous donne, et les parallèles qu'on a fait un peu, bon, on a pris la Gita parce qu'on l'étudie ici régulièrement, donc c'est intéressant de faire effectivement des parallèles. Mais on pourrait prendre des traditions similaires, on retrouve ces idées de lumière, de conducteur de char dans beaucoup de traditions spirituelles. On voit qu'il y a là des étapes. D'abord, ça commence par le respect du serment, respect de l'ordre établi, c'est-à-dire il y a les dieux, les héros, et les génies, c'est-à-dire les anges gardiens, si on veut, les parents, la nation, les recommandations pour la purification, en fait. À partir de là, va progressivement se faire. La Gita dit, dans le cours du temps, la connaissance jaillit spontanément dans le cœur. Là, ben, c'est comme ça que ça se passe. Si cette discipline est suivie, arrive le moment où, effectivement, cette tétraktie, il faut aspirer, hein, c'est la méditation vers le Krishna intérieur. Hein. À ce moment-là, effectivement, cette source de l'éternelle nature va éclairer l'homme intérieur, va lui permettre de voir la constitution des dieux et des hommes mortels. En fait, les hommes mortels, c'est l'aspect mortel des hommes qui sont immortels. Il y a cette double polarité, en fait. Et puis, il y a la nature, elle est semblable partout, l'unicité, tout est dans la nature spirituelle. Le problème de ce qui égare l'homme, et ça permet évidemment après de pouvoir aider collectivement l'humanité, parce que ça c'est une école de sagesse. C'était le but. Et la fin du texte, évidemment, souligne l'importance d'établir cette, comme guide spirituel, ce jugement, c'est-à-dire cette intuition vient de l'intérieur, mais après avoir purifié et fait ce qui était nécessaire pour arriver là. Voilà.